Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30 pour l'heure des pros. L'islamisme a gagné le 28 février dernier. Un proviseur, nous le disions hier, rappelait à 3 élèves leur obligation de retirer leur voile dans le lycée. Lundi, le proviseur a quitté ses fonctions pour des raisons de sécurité, pour convenance personnelle, a communiqué le rectorat. Madame Belloubet est le croque-mort de la République. Elle organise le service funèbre de l'école. Gabriel Attal annonce porter plainte contre l'école pour dénonciation calomnieuse. L'élève avait accusé le proviseur de violence, réponse dérisoire, pourquoi pas un numéro vert. Pendant ce temps-là, le garde des Sceaux brutalise des magistrats du siège et du parquet qui ont témoigné sous serment devant une commission d'enquête. Il s'assoit sur la séparation des pouvoirs et pense qu'il joue Don Corleone chez Francis Ford Coppola. Pendant ce temps-là toujours, Bruno Le Maire, qui lui se prend pour Chateaubriand, masque les chiffres du déficit, dit ce qu'il faudrait faire et ce qu'il n'a pas fait, et pense tellement à 2027 qu'il n'est déjà plus à Bercy. Pendant ce temps-là enfin, la drogue et l'insécurité ravagent les villes de France. Ce gouvernement est en mode panique. On invente une semaine de 4 jours pour les parents divorcés sans avoir demandé à un seul chef d'entreprise la viabilité du projet. Bref, ça craque de partout et 2027 et dans 3 ans, le pire n'est jamais certain. Il est 9h, Chana Lousteau.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Gabriel Attal annonce que l'État va porter plainte contre l'élève qui refusait d'enlever son voile islamique au lycée Maurice Ravel à Paris. Une plainte pour dénonciation calomnieuse après qu'elle a accusé son proviseur à tort de l'avoir violentée pendant leur altercation. Néanmoins, selon l'ancien inspecteur de l'éducation nationale Jean-Pierre Aubin, le départ de ce proviseur reste une victoire pour les islamistes. C'était ce matin sur Europe 1 et CNews.
Je suis persuadé que pour les islamistes, c'est une victoire. Et qu'il la savoure comme telle, hein, qu'une jeune fille, par le simple fait de provoquer un proviseur, réussisse à le faire démissionner de son poste et à le faire quitter de ce poste, est pour eux une victoire certaine.
La menace d'un nouvel attentat inquiète les Français. Dans notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD, on vous a demandé dans quelle mesure vous craignez une attaque dans les semaines ou les mois à venir. Réponse, sur une échelle de 1 à 10, vous évaluez cette peur à 7 en moyenne. Et puis, il y aura bien une réforme globale de l'assurance chômage. Gabriel Attal l'a dit hier soir sur TF1. Pas d'annonce officielle, mais parmi les scénarios possibles, le Premier ministre plaide pour baisser le montant de l'indemnisation. Écoutez.
Oui, il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année. Il y a 3 grandes familles de paramètres possibles. Vous avez la durée d'indemnisation. Donc une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Dans le deuxième paramètre, vous avez le temps qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir bénéficier du chômage.
Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous Pascal.
Merci Chana Lousteau. Je disais gouvernement en mode panique, j'aurais pu rajouter l'assurance chômage qui marche bien, qui est équilibré et qui veulent piquer. Hein. Ils veulent piquer l'argent de l'assurance chômage.
Ils ont déjà commencé
à le faire. Et dès que l'État arrive quelque part, ça ne marche plus.
Oui, enfin,
et les partenaires sociaux, Agir Carco, assurance chômage, ça marche très bien. Ils veulent piquer ça, les petits hommes gris. Et dès qu'ils viennent dedans, c'est foutu. Alors, j'ai dit bonjour quand même à tout le monde. Sabrina Medjaber, bonjour. Merci. Philippe Bidger, bonjour. Gérard Carrero, bonjour. Gauthier Lebret et Olivier Dartigolle. Alors, vous me dites que j'ai dit que Gabriel Attal annonce porter plainte contre l'école. C'est évidemment contre l'élève. Oui. Hein, mais pour dénonciation calomnieuse. Je me demande simplement pourquoi c'est arrivé simplement hier. Puisque ça aurait pu parler depuis.
Et c'est intéressant, il a rappelé aussi la responsabilité de la France Insoumise hier, Gabriel Attal, puisque cette calomnie a été relayée par Daniel Simonet, député LFI. C'est intéressant, il y a un quart des profs qui ont voté Jean-Luc Mélenchon à la dernière présidentielle. Ils prennent sans doute conscience que ce n'est pas un parti qui les protège, mais qui les met en danger.
On écoutera Jean-Pierre Aubin qui était tout à l'heure chez Sonia Mabrouk. C'est effrayant. Effrayant. Et c'est pour ça que moi je pense que c'est fichu. Je pense que tout le monde a compris que les gens mettront leurs enfants, ceux qui peuvent, dans le privé. Les profs ont peur, c'est fini, c'est fini. Madame Belloubet, je l'ai dit, c'est le service funèbre de l'école qui est organisé. Quand l'école recule sous la menace, c'est la une du Parisien aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, on en a parlé hier, le Parisien, qui est plutôt un journal mainstream, c'est-à-dire que les journaux mainstream commencent à venir sur ce qui se passe en France. Quand l'école recule sous la menace, onde de choc après le départ du proviseur, menacé de mort. Donc il y a une France à deux vitesses qui se met en place, ceux qui pourront, ils feront. Et puis les autres, ils seront à la traîne. La une de Libé, évidemment, on n'en parle pas, bien sûr. Et comme à France Inter, on n'en parle pas beaucoup ce matin. Le tweet de Florence Bergeau-Blaclair. Nous n'avons rien appris depuis 40 ans.
Oui.
Parce qu'on en est là. Hein.
Bah oui.
Le voile n'est que le symptôme d'une stratégie frériste que l'on connaît bien à l'université. Mais les études sur le frérisme sont devenues taboues, ce qui ne permet plus de comprendre ce qui nous arrive. Les Français ne se sentent pas protégés, cela peut induire des comportements de retrait. Voilà ce qu'elle dit, Madame Bergeau-Blaclair.
Elle a tout à fait raison, cher Pascal. Ça fait maintenant 40 ans, effectivement, que le voilement prend toute sa place au sein de l'école, qu'il y a de plus en plus d'offensives. Sonia Mabrouk recevait Jean-Pierre Aubin. Il a pourtant alerté dans un rapport en 2004. Ce rapport a été entériné. Aujourd'hui, il écrit « Les profs ont peur ». Mais évidemment que les profs ont peur, mais je rejoins Gauthier. Les profs ont peur, pourquoi ? Parce qu'ils ont des alliés politiques qui sont du côté des islamistes, évidemment. On parle de Daniel Simonet, mais il y a aussi d'autres choses dans lesquelles ils sont impliqués quant à la pratique de leur fatwa. Et aujourd'hui, que se passe-t-il ? Il faudrait déjà que le ménage soit fait au sein même des professeurs,
mais
parce qu'il y a des professeurs,
Sabrina, Pascal, c'est trop tard.
Qui sont du côté, qui
Sabrina,
sont du côté
c'est
des anti,
trop tard.
On appelle cette laïcité inclusivo-diversitaire qui soutient les...
Sabrina,
les...
je vous répète, la vraie question à laquelle personne ne veut répondre, est-ce qu'il est trop tard ? C'est ma conviction.
Non.
C'est-à-dire que les gens qui sont des privilégiés, comme vous, comme moi, passeront...
Je ne l'ai pas toujours été.
Mettront leurs enfants dans le privé. Mais quand ils voudront aller à l'hôpital, ils mettront leurs enfants dans des cliniques ou dans des hôpitaux privés. Quand ils choisiront là où ils iront vivre, ils iront dans des lieux sécurisés, sans point de deal, où ils ne se font pas agresser. Et quand ils partent en vacances, ils choisiront tout. C'est partition, c'est ce qu'avait imaginé
François Hollande.
C'est fini, vous ne pouvez plus rien faire. Comment dire, Maurice Ravel, mais vous ne croyez pas. Prouvez-moi le contraire.
Je vais vous le prouver.
On parle de Nice.
Le constat que vous faites, il est très juste. Et beaucoup commencent à le faire, heureusement. Mais si on suivait votre pessimisme absolu, ce serait la déroute de la politique.
Non, ça serait une partition. Ça vivra en parallèle.
Moi, je crois profondément qu'il y a toujours de l'espoir. Sinon, la politique n'a aucun sens.
Mais elle n'a aucun sens.
Pascal, non, je ne
l'ai pas. Mais qu'est-ce que vous allez faire ?
On mettrait un autre pouvoir en place. Vous développez la conclusion que tout est fichu.
Effectivement, dans certains domaines, c'est terminé.
Il y a quand même
Gérard Carrérou et après Olivier Dacquet.
Oui, c'est un coup terrible pour notre République, ça c'est vrai. Et je partage l'opinion de tous ceux qui disent que c'est une capitulation.
Oui.
C'est une capitulation en race campagne pour la République. Mais c'est aussi politiquement la fin. Quelque part, le crépuscule d'un espoir. Un espoir s'était levé avec Gabriel Attal lorsqu'il est devenu ministre de l'Éducation nationale. Il a eu cette audace, peut-on dire, de faire l'abaya, c'est-à-dire d'interdire... Et aussitôt, formidable adhésion, les gens n'attendaient que ça, et ils se sont dit, avec lui... Enfin, peut-être, on va arriver à ce que souhaite Philippe Bilger, c'est-à-dire un coup d'arrêt. Et malheureusement, pour le Premier ministre et pour le pays, cette affaire-là,
j'attire quand même votre attention pour essayer de contrebalancer votre présentation d'un tableau totalement apocalyptique. que la loi date d'il y a 20 ans, 2004, et qu'elle est très largement soutenue dans la société. Il y a un consensus très large dans la société. Laissez-moi terminer. Concernant la loi de 2004, là, on a simplement une défaite de la politique.
Les profs ont peur, Jean-Pierre Aubin.
Je vous ai parlé de la société. Faites un sondage. Les Français, est-ce que vous soutenez la loi de 2004? La réponse est très majoritairement positive.
Chez les 18-30 ans, ils considèrent à 60% que la laïcité est une attaque à la religion musulmane.
Voilà. Je vous parle de l'ensemble de la société, c'est un point d'appui quand même.
Non, parce que l'ensemble de la société ne veut rien dire.
Si on suit votre discours, les islamistes ont gagné.
Oui,
D'une certaine façon.
Je vous le confirme, ils ont gagné. Ils ont gagné. Alors, s'il vous plaît. Mais vous avez le droit.
Qu'est-ce que c'est que cette France aujourd'hui où un professeur démissionne parce qu'une fille refuse de retirer son voile?
Sabrina Medjaber.
C'est pas la responsabilité de la société. Ce n'est pas de la responsabilité.
Olivier, est-ce qu'on se rend compte de l'inversion des valeurs? Crise de l'autorité, crise de l'adultité, puisqu'effectivement maintenant c'est le professeur qui démissionne, donc c'est l'adulte qui est plus adulte qui démissionne à la place de cette femme.
Absolument pas contradictoire à ce que je vous ai dit.
Problème générationnel, parce qu'il n'y a même aucun respect de ce proviseur qui pourrait peut-être même être son père ou son grand-père, donc il y a c'est très représentatif.
Non, mais ce qui est agaçant, c'est votre aveuglement depuis 30 ans.
C'est que on a léger, en fait.
Je ne l'ai pas toujours été défaitiste. Je le suis maintenant, c'est fini.
Oui, mais
quand on vous le disait, on se faisait traiter de fasciste.
Ah non, pas moi.
Pardonnez-moi. Quand on parlait assimilation, de la société française, on se faisait traiter d'extrême droite.
C'est terminé. Notre société, des ressources considérables pour y faire face.
C'est terminé. Voilà. Alors, en revanche, je voudrais qu'on voit des images et qu'on entende les uns et les autres. Tout d'abord, Adrien Spiteri, le sujet pour nous rappeler les faits.
Face au tollé engendré par le départ du proviseur de ce lycée Maurice Ravel, le Premier ministre réagit et défend la communauté éducative.
J'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Ça me permet de rappeler que l'État, l'institution, sera toujours aux côtés de ses agents, de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires.
De son côté, l'élève à l'origine du départ du proviseur s'est exprimé chez nos confrères de RTL.
C'était mieux qu'il parte s'il ne se sentait pas en sécurité. Moi, je suis passée à autre chose.
La jeune femme, qui n'est plus scolarisée dans l'établissement, condamne les menaces de mort dont il a été victime après leur altercation fin février. En revanche, elle maintient sa version de l'histoire. Elle aurait été victime de violences après que le proviseur lui a demandé d'enlever son voile. Alors même que la plainte déposée a été classée sans suite. Reçue à Matignon, le proviseur peut également compter sur le soutien d'une partie de ses collègues.
Notre proviseur a appliqué la loi, c'est-à-dire qu'il a demandé à une élève d'enlever son voile. Donc je suis désolée effectivement qu'aujourd'hui il est obligé d'arrêter ses fonctions.
Ne se sentant plus en sécurité au sein de son établissement, son départ a eu lieu à seulement quelques mois de sa retraite.
Gabriel Attal sur ce qui s'est passé hier soir. Il était hier soir et il disait ce qui s'est passé le 28 février.
Il a demandé à une jeune femme d'appliquer la loi, c'est-à-dire de retirer son voile dans l'établissement scolaire. Cette jeune femme l'a refusé. Et pire encore, elle a cherché à l'intimider en l'accusant de l'avoir molestée ou de violence. J'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Ça me permet de rappeler que l'État, l'institution, sera toujours aux côtés de ses agents, de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires. Je rappelle que cet entrisme, que ces coups de boutoir, ont fait récemment deux victimes dans la famille de l'Éducation nationale. Dominique Bernard et Samuel Paty.
Évidemment, le rectorat qui parle de convenance personnelle va contre les propos de M. Attal. Donc, d'un côté, les paroles et les actes qui ne suivent pas. Écoutez Jean-Pierre Aubin, qui connaît bien ces sujets-là depuis très longtemps. Il était ce matin chez Sonia Mabrouk. C'est une victoire pour l'islamisme.
Je suis persuadé que pour les islamistes, c'est une victoire et qu'ils la savourent comme telle. Hein, qu'une jeune fille par le simple fait de provoquer un proviseur réussissent à le faire démissionner de son poste et à le faire quitter de ce poste est pour eux une victoire certaine et pour la République un épisode peu glorieux. Qu'on n'ait pas réussi à retenir ce proviseur, à le protéger et à faire en sorte que dans cet affrontement qui avait été provoqué, qui était voulu, qui était volontaire, ce ne soit pas l'école qui l'emporte, la République qui l'emporte, mais ses adversaires résolus, c'est quand même quelque chose qu'on peut appeler, comme certains, une capitulation, en tout cas une défaite.
Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur de l'éducation nationale, qui parle également de ce qu'on peut dire, de ce qu'on ne peut pas dire à l'éducation nationale. On ne peut plus dire à un enfant « t'écris comme un cochon ».
Ah bon ? C'est dingue.
Pour des raisons quasiment religieuses, c'est ce qu'il a dit.
Prof aujourd'hui ne va dire à un élève « ta copie, tu écris très mal, je n'arrive pas à comprendre ce que tu écris ».
Non, mais là, c'est encore autre chose. C'est l'exemple qu'il a donné. Hein. Ce n'est pas moi qui le donne.
Bouge de l'affaire religieuse. Oui. C'est
voilà.
Dingue.
Non, mais donc, écoutez, ce qu'il... c'est ce qu'il dit. Les profs ont peur. Il sort, et, je veux dire, il vient d'entendre une multitude de profs, et les profs ont peur. Et d'ailleurs, plus personne... Moi, je suis prof, je vais être dans le privé. Ils n'iront plus non plus dans le public. C'est pour ça qu'en fait, ça fonctionne par effet de seuil. Ce qu'on pouvait faire avant, on ne peut plus le faire maintenant. C'est pour ça que je pense que c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Deuxième passage avec M. Aubin.
Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas sur des sujets propres aux disciplines qui a le plus d'autocensure, mais sur les sujets qui traitent des valeurs. L'enseignement de la liberté d'expression, l'enseignement de la laïcité, l'enseignement de la lutte contre l'homophobie ou l'antisémitisme.
La mixité également.
La mixité, l'égalité filles-garçons. Voilà les sujets qui entraînent le plus de contestations et que les professeurs ont qu'ils ont de la difficulté à aborder et que certains ont peur d'aborder et n'abordent plus.
Et le troisième passage que je voulais vous montrer, c'est la terreur. Parce que la terreur, en fait, comme toujours, ça marche.
Ce qui est certain, c'est que la terreur, ça marche, ça fonctionne. Voilà. Les professeurs sont, certains d'entre eux, terrorisés par toute une série de petites situations, comme ce professeur qui ne dit plus « ceci est votre Bible » ou « tu écris comme un cochon » parce qu'elle a peur que ces expressions qui lui étaient familières, qu'elle utilisait avec un certain humour dans la classe, ne puissent être mal interprétées et puissent dégénérer.
Mais ça fait 25 ans qu'il le dit. Hein.
Oui.
25 ans.
Oui, oui, c'est vrai.
25 ans qu'il le dit. C'est pour ça qu'il n'y a plus de solution. C'est fini. Il faut bien le comprendre.
Parole.
Dernière chose, monsieur, madame Belloubet, pour vous dire combien c'est fini. Elle n'ose même pas dire qu'il a démissionné.
Qui ?
Madame Belloubet, elle dit qu'il est en retrait.
Une responsabilité
quand je dis que c'est le croque-mort de la République, quand je dis qu'elle organise le service funèbre de l'école, elle devrait démissionner. Comment Gabriel Attal a pu accepter que Nicole Belloubet soit ministre de l'Éducation nationale? C'est une vraie question.
Elle a détruit.
Il n'y a pas des sections, des sanctions vis-à-vis du rectorat.
Écoutez ce qu'elle dit, parce que c'est minimisé, c'est de ne pas dire les choses.
Elle le fait.
Exactement. Il a démissionné. Ah non, il est en retrait. Il est en retrait.
En retraite anticipée.
Scandale. Les gens qui nous dirigent, ce qu'elle dit devrait la mettre en dehors du gouvernement.
Sur la question du proviseur du lycée Maurice Ravel, juste un mot pour dire qu'il n'a pas démissionné. Il est en retrait et il doit prendre sa retraite. Il est en retrait, il doit prendre sa retraite au mois de juin ou de juillet. Et il est actuellement placé en position d'activité où il est rémunéré en ayant une autorisation spéciale d'absence. Et donc, il n'a pas démissionné, il est en autorisation.
Vous avez totalement raison.
Mais tout le monde, pense la même chose en fait. Tout le monde pense la même chose.
Attal avait fait bien.
Surtout ses propos sur Mila où elle instaurait le délit de blasphème aurait dû la discréditer pour ce poste-là quand on connaissait l'ambition de Gabriel Attal.
Comment est-il possible d'avoir ces gens-là? Comment est-il possible que Gabriel Attal ne dise pas dehors?
Oui, bien sûr.
Et qu'il montre son autorité dehors.
Une Belloubet catastrophique, Attal ne l'est pas. Pascal.
Non.
Donc,
non.
Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de renfiler son costume de ministre de l'Éducation nationale hier soir au 20h de
TF1. Mais l'éducation est moins à Matignon. Mais ce qui est catastrophique, c'est le en même temps au gouvernement sur une affaire aussi sensible. On ne peut pas avoir à la fois Attal, qui est celui qui a effectivement supprimé la baïa, et avoir Mme Belloubet, qui a été toute sa vie sur une autre ligne politique. Donc c'est ça. Or là, qui est responsable? Qui est responsable de cet antagonisme latent et permanent entre le Premier ministre et son ministre de l'Éducation, celui qui a constitué ce gouvernement, c'est-à-dire le président de la République? Et on en reviendra toujours là.
C'est vrai. Je vous propose d'écouter Michaël Paty, qui est la sœur de Samuel Paty, qui a évidemment... qui est sur la même analyse que ce que nous disons ce matin depuis 9h.
Moi, je le qualifierais plus comme un comportement attentiste. C'est comme s'il y avait un temps de latence où on attend de voir si, effectivement, il va y avoir acte. Sauf que, effectivement, par rapport à tous les arguments que je viens d'énumérer, il était totalement évident qu'il aurait dû être mis en retrait et qu'il aurait dû bénéficier d'une protection. Les éléments étaient requis pour qu'il puisse bénéficier de deux officiers de protection de la SDLP.
Elle voilà. parlait de son frère.
Comment ?
Elle parlait de son frère, non ?
Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Ben, c'est l'attentisme. Mmh. Bien sûr, bien sûr. J'ai peur que nous ne disions que des choses que nous savons déjà.
La seule différence entre nous, Pascal, c'est l'espoir. C'est-à-dire,
il y a de l'espoir pour vous. Non. Il y aura de l'espoir personnel.
Non.
Mais
non,
simplement, la France que vous avez aimée, elle n'existera
non,
plus.
Non, mais comme vous
vous débrouillerez.
Vous semblez convaincu par votre tout est foutu. Oui.
Non, pas tout est foutu. Je dis que ça, comprendre. C'est foutu. C'est-à-dire que vous pourrez vivre.
Ah non, mais
il y aura une France à deux vitesses. Oui. Vous vivrez dans les écoles privées, dans les hôpitaux privés, dans des... voilà, c'est le séparatisme.
Oui, mais même là, je pense que votre pessimisme lucide est excessif. Parce qu'en
c'est ce qui se passe déjà.
Mais oui, mais
là, avec Ravel, vous aviez un exemple chimique d'intervention. Vous mettiez 10 quarts de flics pendant jusqu'à la fin de l'année. Vous y étiez tous les jours et vous gardiez le proviseur en place et vous examiniez précisément ce qui se passe. Vous ne l'avez pas fait. Oui. Ils ne le feront jamais.
Mais d'autres choix politiques sont possibles.
Mais c'est une responsabilité politique,
mais ils ne le feront pas parce qu'ils sont tous du même modèle. Mais Madame Belloubet pense à l'important, c'est la voiture à cocarde. Je vous l'ai dit.
Sans mobiliser des quarts de flics. Donc là, il était tout simplement nécessaire de rappeler à l'ordre le rectorat, de le sanctionner, de faire un autre communiqué et d'assurer le proviseur d'une solidarité pleine et entière et que l'élève soit sanctionné. Ça se fait en une demi-journée, ça.
Olivier.
Mais sous une autre présidence.
Tous les êtres ne sont pas nuls.
Non.
Mais je ne dis pas qu'ils sont nuls.
Non, mais
elle n'est pas nulle, Madame Belloubet. J'ai jamais dit ça.
Mais pour une Belloubet, il y a des gens qui m'aiment.
Elle n'a pas de courage. Elle n'a pas courage et elle ne voit pas les enjeux de ce qui se passe. Et pour des raisons personnelles, c'est de la même manière que Monsieur. Monsieur le maire, il parle de 2027, il pense qu'à ça. Tous ces gens ne pensent qu'à eux.
Là, je vous trouve sévère.
Et puis, il y a une autre dimension, Pascal Praud. Votre discours et votre réflexion, aujourd'hui même, à l'heure où on se parle, il y a des enseignants face à leur classe.
Voilà.
Et un certain nombre d'entre eux relèvent le gant.
Bien sûr.
Et essayent de le faire tous les jours. On leur adresse quoi comme message, les concernant?
Ils veulent surtout aller dans
le laisser tomber.
C'est pas vrai.
Non.
Moi, j'ai beaucoup de copains
qui sont
le public.
Non.
C'est pas vrai.
On les encourage.
On leur adresse quel message en leur disant.
Pardonnez-moi.
De toute manière, vous avez beau.
Enfin, c'est pas moi quand même qui suis responsable de la situation. Excusez-moi.
Non, je dis tout simplement quand on leur
vous avez un ministre aussi couard que Madame Belloubet et qui explique qu'il n'a pas démissionné.
Mais vous en tirez la conclusion que c'est foutu et plié. Vous
faites je m'en rends compte, j'attends. Si on me prouve le contraire.
Mais il y a des enseignants qui aujourd'hui prouvent le contraire.
Mais c'est pas. J'ai pas attaqué les enseignants, j'ai attaqué les gens.
Oui, pour les enseignants, on leur donne le message. Écoutez, effectivement, vaut mieux. Quelque part, c'est un encouragement à baisser les bras.
Ah,
pour les
enseignants. Tous ceux qui disent la vérité, la semaine dernière, il y a des magistrats du siège qui ont parlé.
C'est vrai.
Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez Éric Dupond-Moretti, il pense qu'il est Don Corleone.
Pareil,
il vient voir les gens et il leur dit, vous n'allez pas dire ça.
Mais enfin,
exact.
Mais vous avez raison.
Mais évidemment que j'ai raison.
Ce sont des... Oui, mais...
Bien sûr. Alors ils ont simplement témoigné sous serment. Et ils ont dit la vérité.
Mais ce sont des pratiques ministérielles médiocre
ou
indigne. Mais ça ne permet pas de, d'imaginer le futur de la France comme une catastrophe.
Écoutez, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans. Ça, oui, maintenant, mais... je vais vous dire, ça fait 30 ans.
Oui, mais 30 ans.
Donc ça fait 30 ans que... mais... voilà. Le rapport Aubin, il date de quand ?
2004.
Bon, 2004. On est il y a ça 20 ans.
Moi, je crois qu'on n'attend que des ministres dignes de ce nom.
Merci. Et c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de courage.
Bien sûr.
C'est évidemment la valeur la moins partagée du monde.
Comme l'a dit Vera, on ne fait pas Dieu en même temps.
Je ne fais pas Dieu en même temps. Et à gauche comme à droite. Bon, il est 9h20. Quelle heure il est ? Il est 9h23. On va être avec 9h24 déjà. Tout au moins.
Absolument.
Thomas Hill. Bon.
Bonjour Pascal.
Vous allez bien ?
Très en forme ce matin, Pascal.
Mais non, mais je suis en forme. En fait, je suis désespéré. Voilà ce que je pense, comme beaucoup de Français. Quand tu vois ce qui s'est passé à Nice, quand tu vois ce qui s'est passé à Nantes hier, quand tu vois ce qui s'est passé à Roissy, où en fait des Kurdes ont empêché, en pleine journée, un Kurde qui était expulsé hier. Les Kurdes, ils sont arrivés dans Roissy, une bagarre. Général. Donc, je veux dire que ces gens savent qu'il ne se passera rien.
En présence d'élus communistes. Exactement. Avec un char tricolore.
Et donc, voilà. Donc, qu'est-ce que vous écoutez des magistrats, vous écoutez Bruno Le Maire qui vous explique que les cartels de Medellin vont s'installer en France ?
Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps, je veux bien. Donc, je dis, ça craque de partout. Thomas Hill, merci.
Merci. À
bonne bien. Chance quand même.
En café. Bonne journée.
Et bonne journée quand même. Et ce qui est dommage, effectivement, là où il y a l'espoir, c'est dans le privé, c'est les chefs d'entreprise, c'est les Français en fait. Les Français, ils ont une résilience extraordinaire là, par rapport à nos dirigeants.
Il y a de l'espoir aussi dans le public, avec des professeurs qui se battent.
Bien sûr. Voilà.
Mais ça, ils incarnent l'espoir aussi, c'est les profs qui se battent.
Les profs, quand je dis c'est le privé, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est des individus. Il y a de l'espoir avec les individus. Évidemment, oui, toujours.
Avec les individus, s'ils sont
soutenus. En fait, vous voulez dire l'espoir là où l'État n'est pas.
La pause à 9h25 et on va continuer. Je vous parlerai du quartier des Moulins à Nice. Je vous parlerai du Val-de-Marne, de ce qui s'est passé. On parlera. En fait, c'est le journal des mauvaises nouvelles.
La tonalité restera pessimiste.
On écoutera Monsieur Molins. On écoutera Monsieur Molins. Donc.
Vous savez que tous les matins sur les réseaux sociaux, je donne une bonne nouvelle. Tous les matins. Et j'en trouve une chaque fois.
Vous avez raison. Que si vous voulez, je dise, vous avez raison. Moi aussi, je vais vous donner une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que je vais vous donner ?
C'est que.
C'est la pub.
Vous êtes payé.
Je suis content que Jean-Marie Roire soit de retour avec nous. Parce que l'autre jour, je me suis reproché, quand vous êtes venu, de ne pas avoir saisi exactement le bar de l'Oriental. Et je plaide coupable, voyez-vous. D'abord parce que je n'avais pas vu la pièce, qui peut arriver de temps en temps. C'est une date, comme vous le dites. Mais au-delà de la pièce, qui est évidemment fort intéressante, il y a autre chose derrière, c'est les va-t-en-guerre, qui ont toujours existé. Bon. Et il y a des va-t-en-guerre dans notre pays, et parfois, ils nous mènent précisément à la guerre. Et c'est ce thème-là que je voudrais qu'on développe tout à l'heure, plus profondément, et peut-être plus sérieusement que nous l'avons fait, parce que vous parliez beaucoup de l'Académie, de Laurent Fabius, l'autre jour, comme ça. Il faut revenir sur des choses sérieuses.
Mais c'est vous qui m'avez parlé de l'Académie. Moi, je m'y intéresse beaucoup moins vous.
Donc on en parlera tout à l'heure.
Les va-t-en-guerre, c'est de tous les temps, de tous les pays. Et dans cette pièce sur l'Indochine, j'ai essayé de montrer à quel point on était à une date spéciale. Parce que la guerre d'Indochine, c'est un symbole. C'est un symbole sur beaucoup de points. C'est un symbole d'abord sur le recul de l'Occident. C'est une des grandes dates du recul de l'Occident. Et en même temps, ça montre toutes les contradictions occidentales. À la fois la culpabilité de l'Occident qui subitement ressurgit parce que quand même les Français n'étaient pas là par hasard. Les Français, et ils étaient dans des débats, c'est ce que j'ai essayé d'exprimer dans cette pièce, c'était de montrer à quel point nous sommes plein de contradictions et notre monde accroît nos contradictions parce que nous devenons beaucoup plus intelligents sur l'histoire. Nous savons très bien que le Sud global n'a pas complètement tort. Bon, parce que tous ces pays qui ont été construits sur des accords pétroliers, bon, c'était pas vraiment désintéressé. Donc, vous voyez, je crois que c'est intéressant, le problème de la guerre, parce que c'est un problème éternel, et le problème des va-t-en-guerre me paraît être vraiment au cœur de l'actualité, de toutes les actualités à tous les temps.
Et c'est pour ça que vous êtes venu ce matin pour développer ce sujet de manière plus importante. Pourquoi vous souriez, monsieur Olivier d'Artigol ?
On fait ce qui aurait dû se passer sur notre émission. C'est une séance de rattrapage.
Non, mais parce que vous aviez... toujours, mais parfois...
oui, vous aviez pris un autre chemin.
Non, mais on est débordé par le temps.
qui existe. Et puis, en sortant de l'émission, j'ai dit à Jean-Marie, c'est vrai qu'on n'a pas assez creusé cette idée des va-t-en-guerre, et je lui ai proposé de revenir. Mais avec son élégance, et il ne me l'aurait même pas demandé. C'est moi qui suis allé vers lui. Somaya Labidi, le rappel des...
Quel échange d'élégance.
Journée de mise en situation au Auvernais depuis la disparition d'Émile le 8 juillet 2023. Aucune piste n'a réellement émergé. Aucun suspect n'a été placé en garde à vue. Cette sorte de reconstitution va permettre de confronter les éléments d'enquête au réel. Plainte de l'État pour dénonciation calomnieuse contre la jeune femme à l'origine de l'altercation avec l'ex-proviseur du lycée Maurice Ravel. Son départ après des menaces de mort a suscité une onde de choc dans la communauté éducative et fait réagir toute la classe politique. Et puis il décroche le méga million. Un homme originaire du New Jersey remporte plus $1 milliard. L'euro gagnant peut opter pour un paiement unique de $537 millions ou recevoir la totalité de ce montant astronomique sur 30 ans.
$1 milliard? Ouais. Oui, effectivement, c'est de l'argent. Bon, est-ce qu'on a tout dit sur ces inquiétudes et sur Ravel? Sauf si quelqu'un veut ajouter quelque chose. Je peux d'ailleurs demander à Jean-Marie Rouard, notre débat que vous avez dû suivre dans la première demi-heure, c'est qu'on peut imaginer qu'il n'y a plus de solution.
Alors, moi, je vais vous dire, j'ai une position, j'ai écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle « Ce pays des hommes sans Dieu ». Moi, j'étais sur la position napoléonienne. Moi, j'étais sur le concordat et j'étais sur l'idée que toutes les religions n'étaient pas néfastes. C'était l'idée napoléonienne. Mais que le catholicisme était la religion de la France. Je trouve que, et c'est l'inconvénient, je trouve, de la loi sur le séparatisme, c'est de mettre toutes les religions à l'écart et d'être anti-religieux. Je crois que la religion n'est pas néfaste en elle-même. Les religions ne sont pas néfastes, attendez, je termine, et que ce qui manque à notre société française, qui était tellement modelée par le christianisme, particulièrement par le catholicisme, c'est d'avoir confiance dans ces valeurs catholiques et dans ces valeurs judéo-chrétiennes. Voilà. Et qu'en laissant sous l'influence d'un certain nombre de laïcs, de laïcards, je dirais, eh bien, on a diminué la pression, la force du catholicisme, et ça a permis à d'autres religions de s'installer.
Oui, alors, c'est une explication possible, mais c'est vrai que l'immigration... plus que la séparation de l'Église et de l'État, a sans doute favorisé l'arrivée sur la terre de France d'une nouvelle religion,
mais les conversions,
me semble-t-il.
Les conversions, pourquoi y a-t-il des conversions de catholiques à l'islam et il y a très peu de conversions de l'islam au catholicisme?
Bon, en tout cas, je voulais qu'on fasse un large tour d'actualité de ce qui se passe en France et qu'on voit le sujet de Camille Guédon dans le Val-de-Marne qui montre là aussi trois mineurs qui seront jugés parce que ils ont mis en danger, d'une certaine manière, l'école de la République.
Jugés pour avoir menacé de mort leur proviseur. Tout commence en janvier 2022, lorsque la direction d'un lycée d'Ivry-sur-Seine se confronte plusieurs fois au refus d'une lycéenne de 18 ans d'enlever son voile et son abaya. Malgré les tentatives de médiation de la direction avec la jeune fille, le lycée décide de l'exclure pour atteinte à la laïcité au printemps 2023. L'élève renvoyée diffuse alors une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle elle relate son exclusion et accuse le proviseur et l'établissement d'islamophobie. La publication devient alors virale et provoque une vague de haine en ligne contre le proviseur. Selon le parquet de Paris, la préfecture du Val-de-Marne a fait un signalement sur la plateforme Pharos le 11 juin dernier. D'après le ministère public, deux jeunes hommes ont ensuite posté par réaction des messages de haine et particulièrement violents. La jeune femme et les deux jeunes hommes sont convoqués pour comparaître le 31 mai prochain devant le tribunal correctionnel de Paris pour cyberharcèlement et menace de mort.
Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse dire qu'on n'a pas dit sur le premier sujet, ouais. Mais ça montre un climat général. Là, on va parler par exemple des fusillades. Faut-il envoyer maintenant l'armée à Nice? On en est là. L'armée dans le quartier des Moulins. Et avant de voir le sujet, je voulais peut-être qu'on écoute les mères de famille. Parce que les mères, elles en ont ras-le-bol. Mmh. Mais c'est parfois des populations qui sont défavorisées sur le plan économique. Là encore, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous vivez dans un beau quartier. Vous n'êtes pas confronté sans doute à cela. Et celle qu'en ont marre, c'est les mères d'ailleurs, comme toujours d'ailleurs. Écoutez cette première mère de famille.
Moi, je vois un quartier qui vivait et qui se détruit. On voit des élus qui n'apportent rien. On voit des politiciens de tous bords qui n'apportent rien, uniquement quand il y a des élections. Et là, on veut voir vraiment du concret sur le terrain. On veut reconquérir, comme j'ai dit, notre territoire. Et notre territoire, c'est le quartier des Moulins.
Qu'est-ce que ça vous inspire, les opérations Place Nette ?
C'est pas suffisant pour nous, c'est pas suffisant parce que en fait c'est déplacer le problème. Il y a des années j'ai déménagé du quartier et j'avais expliqué que c'était pas le béton qu'il fallait travailler mais les gens. Et en fait on en est arrivé à déplacer, à travailler du béton, pas travailler les gens, et on en arrive à ce qu'on a aujourd'hui.
Et vous rendez compte la force de ce témoignage ? C'est pas le béton le problème, c'est les gens. Elle dit tout cette dame.
Absolument. Et surtout dans une ville où il y a le contraste entre des violences collectives inadmissible, Place Nette qui n'est pas quelque chose à mépriser comme tentative de restaurer un petit peu d'autorité de l'État, et dans une ville où le maire fait tout ce qu'il peut, on ne peut pas dire qu'il soit étranger à une forme de sévérité régalienne. Ça, et pourtant...
Et c'est pour ça que je vous dis, si vous ne changez pas complètement de logiciel, c'est pour ça que la certitude que j'ai, c'est que c'est fini, c'est des effets de seuil. Et que maintenant, c'est plus possible, sauf de prendre de telles décisions qu'elles, personne ne les prendra sans doute. Alors, voyez le sujet de Franck Triviau sur ces rixes dans ce quartier.
Lundi soir, dans le quartier des Moulins à Nice, aux abords d'un point de deal, des coups de feu sont tirés. Mardi, c'est un affrontement d'une rare violence qui éclate sur la place des Amaryllis. Face à cette situation, la CRS 81 a été déployée sur place. Une présence nécessaire mais insuffisante pour de nombreux riverains.
On pourrait peut-être envisager d'envoyer l'armée de manière même provisoire dans ces endroits pour faire établir l'ordre et la loi.
La police, on sait qu'elle a souvent des problèmes quand elle intervient. Est-ce que la force sentinelle, c'est une bonne solution ? Je pense que oui, ça peut remettre de l'ordre dans ces quartiers. Mais avant tout, il faut que la justice... interviennent.
Le déploiement de l'armée, la municipalité de Nice y est favorable. Elle se dit prête à mettre en œuvre des moyens supplémentaires pour assurer la sécurité, alors que la situation se dégrade de jour en jour dans le quartier.
Ça fait 40 ans que je suis dans le quartier, mais au jour d'aujourd'hui, c'est plus notre époque, c'est fini. C'est fini. On a honte. Voilà, c'est tout. On regarde et on ne peut rien faire. Voilà, on subit.
Excédés par la violence et le trafic de drogue, certains habitants assurent ne plus vouloir se laisser faire.
Écoutez, c'est deux mères de famille encore.
Hier, il y a eu une bagarre entre civils, entre des jeunes du quartier et des clandestins. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal que c'est nous qui devons faire justice aujourd'hui ? Non. Voilà. Donc, monsieur Estrosi, s'il vous plaît, on a besoin de vous. Il serait temps de se réveiller quand même. La France est devenue un pays laxiste. Donc nous, aujourd'hui, on en a marre. On en a ras-le-bol. Moi, je compte partir du... Même quitter Nice, même. Parce qu'il y en a vraiment marre.
Il y a des habitants qui sont embêtés, qui entendent le bruit ou qui voient les clandestins devant chez eux fouiller dans les petits locaux. Et quand ils osent se plaindre ou leur demander d'arrêter ou de partir, ils reçoivent des menaces en disant... Tu te tais plus vulgairement, sinon on te frappe, enfin on te casse la bouche, clairement, mot à mot, et on te casse la porte. Ça fait déjà plusieurs mois que ça dure, et qu'on ne peut pas travailler tranquille, on ne peut pas vivre tranquille, il y a des personnes qui ont peur d'aller faire leurs courses, simplement. Il y a des personnes qui ont peur de faire les choses du quotidien, parce que peur d'être embêté, ou peur d'être suivi, ou autre, ou agressé, simplement, ou peur de prendre une balle perdue aussi.
Et moi, le procès que je fais à la classe médiatique, c'est pas de témoigner de ce qui se passe en France. C'est-à-dire que les grands journaux, c'est la vision heureuse. Je parle de TF1 et France 2. Globalement, à grands traits, c'est la version heureuse. Mais si ça va pas si mal, regardez ça, comme c'est fort. C'est comme vous, c'est le syndrome, j'ai une bonne nouvelle. Pardonnez-moi, mais ça n'a pas de sens, en fait. Mais non, ça n'a pas de sens.
Mais votre discours n'en a pas non plus. D'annoncer tous les matins le fait qu'on ferme la lumière et qu'on retire le rideau et que c'est fini, et que c'est foutu, et que c'est plié.
Moi qui le dis.
Il y a dans ces quartiers...
C'est des dames qui parlent.
Je le sais.
Je vis
dans le 19e arrondissement, avec des contacts sur le côté, ils connaissent CNews, ils regardent, et donc j'ai beaucoup de discussions. Il y a des choses... très dur dans les quartiers.
Oui.
Des tracas multiples. Les gens des quartiers populaires sont les premières victimes de l'insécurité.
C'est ça qui est terrible.
Voilà. Et ce sont les premières victimes de l'insécurité. Et il y a aussi des personnes qui, dans ces quartiers-là, ne tiennent pas le discours que vous tenez. Voilà. Et quand vous me dites, ce que vous faites avec votre journal des bonnes nouvelles, c'est n'importe quoi, ça n'a pas lieu d'être. On a besoin. Vous voyez, j'ai parlé hier de 20 jeunes d'un quartier à Pau qui viennent de monter un lieu pour aider les gens à faire des démarches administratives avec deux ordinateurs qu'ils mettent à disposition.
On ne pourra jamais être d'accord.
D'ailleurs. Eh bien non, mais c'est pour ça que je suis là d'ailleurs.
On ne pourra jamais être d'accord parce qu'en
mais
fait...
Alors comment on fait? Parce que vous me dites on change le logiciel. Vous y mettez quoi dans votre logiciel?
Tous ceux qui sont en infraction avec la loi ne sortent plus.
Oui, mais...
Est-ce que ça vous va?
Oui, mais ça ne...
Est-ce que ça vous va comme règle?
Je suis pour
C'est-à-dire que la deuxième fois, dans la drogue, il n'y a plus de sursis. Sanction pénale XXL. Est-ce que ça vous va?
D'accord. Et pour un tueur d'enfants, vous faites la même...
Pareil.
La même peine. Donc...
C'est-à-dire que maintenant, d'accord, c'est tolérance zéro en tout.
D'accord.
Mais vous ne pouvez pas mettre sur le même plan toutes les infractions.
Et vous avez évidemment, évidemment que je ne les mettrai pas sur le même plat. Vous le savez bien.
Enfin, vous me rassurez.
À Nantes, hier, il y a un jeune homme de 18 ans qui a rigolé une jeune femme de 23 ans.
Oui.
18 ans, un SDF. Il est sorti de prison le 28 février.
Mais c'est inacceptable.
Et Johanna Roland est ravie que la ville soit écoféministe et créative. Hein.
Exactement. Et Madame Roland dit, ma ville est plus féministe depuis 10 ans. Les agressions sexuelles, je crois, ont multiplié par de 98%. Mais dit, la ville est plus féministe.
Non, mais c'est de la mort.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà.
Non, mais
et elle sera sans doute réélue.
La mairie
elle sera réélue sans doute parce que...
Ah bah c'est un bastion. Hein.
Parce que, je veux dire, d'abord, la droite n'est pas unie. Et elle sera sans doute réélue parce que le découpage a été tellement fait avec Jean-Marc Ayrault qu'elle sera sans doute réélue.
Mais la mairie de Lyon n'a pas la responsabilité d'un dysfonctionnement judiciaire.
Et ça sera pareil à Rennes.
La mairie de Lyon n'a pas la responsabilité d'un dysfonctionnement judiciaire.
Olivier.
Allez.
Oui, à Nantes.
Est-ce que vous voulez écouter simplement M. Molin, ce qu'il parle de la drogue? Parce que tout ça va ensemble. Ce qu'il dit à M. Ciotti d'abord.
Monsieur
Ciotti d'abord et sur Nice et après M. Molin.
Ce qui s'est passé à Marseille, c'est une narcocité aujourd'hui. 49 homicides l'année dernière. Ce qui se passe dans ma ville à Nice, où depuis 48 heures, un quartier est à feu et à sang. 40 personnes hier se sont attaquées aux policiers, des règlements de compte à coups de marteau. C'est malheureusement, ce que me disait un policier récemment, ce qui guette le pays dans quelques années si on ne met pas un terme à ce fléau qui est à la source de la criminalité, de la violence.
Ça s'appelle la libanisation du pays. Je vous propose d'écouter M. Molin sur la drogue, ce qu'il disait hier devant cette commission d'enquête du Sénat.
Je pense qu'on est clairement face à un phénomène qu'on n'arrive pas à endiguer et qui grossit. Je crois qu'il y a déjà eu depuis 2017 ou 2018, il y a eu plusieurs plans nationaux de lutte contre le trafic de stupéfiants. Bon. Avec beaucoup de moyens investis, beaucoup d'énergie policière, beaucoup d'énergie judiciaire, beaucoup d'énergie financière. Et effectivement, on voit que le problème ne cesse de s'accentuer. Donc en réalité, on n'arrive pas à l'endiguer, le problème grossit dans des proportions telles que le narcotrafic finit par avoir des moyens considérables qui, si on ne l'arrête pas, pourront finir par déstabiliser, j'allais dire, la puissance publique.
Et vous voyez, c'est pas moi qui le dis.
Sanctionné est à la retraite.
Mais c'est pas. Non, mais je vous assure, c'est pas moi qui le dis. Quand est-ce que vous allez prendre conscience qu'il faut être radical?
Mais on est là d'accord là.
Mais non, vous l'êtes pas.
Mais si le constat, il faut être idiot pour ne pas le rendre pessimiste. Il est même assez terrifiant aujourd'hui sur beaucoup de plans. Là où en ce qui me concerne, j'ai un léger désaccord avec vous, c'est que je crois qu'il est possible de remonter la pente profondément, mais pas seulement par des initiatives individuelles, Olivier,
Jean-Marie
mais
par
la mise en place d'un nouveau système de courage et de vérité.
Jean-Marie Rouard qui est historien et qui a un regard plus large que nous sur la France millénaire. Où en sommes-nous aujourd'hui?
Non, je crois que j'ai un léger désaccord avec vous, même assez profond. Ça serait sur la prévention. Moi, vous êtes pour la répression. Moi, je suis pour la prévention. C'est pour ça que je suis peut-être plus à gauche que vous. J'ai pas de mal, vous allez me dire. Mais néanmoins.
Vous, il est très à gauche sur notre sujet. Non, sur notre sujet, il est.
Néanmoins. Non, mais je plaisantais, on peut plaisanter. Non, c'est un sujet très grave. Mais je crois que sur la prévention, par exemple, c'est vrai qu'il y a eu une erreur colossale des pouvoirs publics. Il faudrait voir la responsabilité des pouvoirs publics depuis très longtemps, sur beaucoup de sujets, sur le bac, sur énormément de choses. Sur la paupérisation de la jeunesse, c'est terrible. Mais en même temps, la suppression du service militaire a été une terrible erreur de Jacques Chirac. Terrible erreur parce que c'est créé entre les éléments de la société, ça crée des liens et cette disparition est très regrettable. Ségolène Royal avait proposé, à un moment, quand elle s'était présentée, de rétablir une forme de service militaire. Je crois qu'il faudrait réfléchir à quand même tout ce qui est prévention. Parce que vous savez, les gens de 18 ans, qu'ils soient maghrébins ou pas, ils font tous souvent des conneries. Nous avons, nous-mêmes, quand nous avions 18 ans...
Enfin, je ne me battais pas avec des couteaux quand j'avais
18 ans. Non, excusez-moi.
Mais ce relatif, non, mais c'est non, moi je ne partage
pas votre avis. Mais c'est culture de la violence. Alors,
mais je ne partage pas votre avis, on faisait des bêtises.
Est-ce que vous regardez la télévision le soir? Eh bien, je vous conseille de la regarder, c'est que de la violence. C'est du porno ou de la violence.
Ah bon?
Alors, franchement...
Parce que vous regardez, je suis académicien.
Parce que vous regardez,
je suis académicien.
Je n'ai jamais vu de porno sur
la violence.
Ou alors, vers 2h du matin.
C'est vos choix de programme personnel.
Vous couchez tard.
Non, donc, je crois que nous sommes dans une société qui diffuse la violence. En tout cas, pour la violence.
Oui.
Sur les écrans, franchement, il n'y a que ça.
Oui, mais bon.
Moi, j'ai horreur de la violence.
Alors, c'est quoi votre analyse?
Mon analyse, c'est que je crois qu'il faut revenir à des responsabilités d'insertion. Je crois que le travail manuel, on a rejeté le travail manuel. Toute une société qui est dans les marges maintenant est sans travail. Je crois que c'est cette forme d'oisiveté, cette forme d'absence d'insertion.
D'oisiveté,
moi, j'agirais sur un élément fondamental dans une société, c'est le travail. Le travail, encore le travail, insérer les gens. À partir du moment où vous travaillez, que vous fondez une famille, vous faites beaucoup moins de bêtises.
C'est ce que pense Emmanuel Macron.
Ah oui, c'est pas
vrai.
Ou la réforme du bac.
Il n'a pas tort.
Alors, on va marquer une pause et on va recevoir également le professeur Kayat, ce qui fait que malheureusement, le plus jeune d'entre nous va nous.
Oui, celui qui a eu le 18 ans le plus récemment, oui.
Celui qui a eu le 18 ans. J'ai une surprise pour vous. Parce que j'ai décidé aujourd'hui d'être très gentil avec vous.
Ça change.
Méfiez-vous quand même.
J'ai trouvé une petite archive. Vous vous souvenez de votre des feux du pouvoir. 1977, je crois.
Ça ne me rajeunit pas, oui.
Bon, et vous aviez eu le prix Interallié. Et vous étiez invité chez Bernard Pivot, avec Bertrand Jouvenel qui était en face de vous. Vous en souvenez peut-être?
Très bien.
Eh bien, vous allez revoir, non pas l'émission entièrement, mais j'ai trouvé un extrait.
C'est dommage.
Ah oui, je vous remercie pour mon émission. Mais on salue Bernard Pivot, qui nous écoute peut-être.
Qui nous manque beaucoup.
Bon, il nous manque beaucoup mais à la télévision, mais il est toujours proche de nous. La pause, merci, cher Gauthier, et le professeur Kayat dans une seconde. 9h59, donc on va être pile à l'heure, mais j'avais oublié que vous partiez à 10h, et je vous remercie grandement Philippe Bilger, parce que vous devez être gare de Lyon à 11h,
voilà.
Et je ne suis pas sûr que vous y arriviez.
Je vais essayer.
Bah, allez-y, vous nous passez un petit coup de fil ?
Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre.
Ah bah écoutez, voilà, il est... Mais c'est quand même un challenge. Hein, oui. Merci. Bah, merci, et va, je ne te hais point, comme disait Chimène Rodrigue. Nous sommes avec Somaya Labidi et on va recevoir le professeur Kayat dans une seconde.
C'est le thème, hein. Orage aux espoirs, on est dedans.
La charge d'Emmanuel Macron contre le Mercosur, un accord de libre-échange, je cite, très mauvais. C'est pourquoi le président plaide en faveur d'un autre accord avec des clauses miroirs. Montée des tensions dans un établissement scolaire près de Rennes, l'école publique de Nouveau-Atout est fermée, les enseignants sont en grève, un choix fait à l'unanimité pour dénoncer les propos agressifs de certains parents d'élèves. Et puis de quoi lutter contre la montée de l'antisémitisme, Berlin prévoit d'introduire dans ses tests de naturalisation des questions sur l'Holocauste, Israël ou encore le judaïsme. Depuis le 7 octobre, l'Allemagne connaît une recrudescence des actes antisémites sur le territoire.
Donc David Kayat est avec nous, vous le connaissez. Alors exceptionnellement, il a écrit un roman, mais est-ce vraiment un roman, Monsieur Kayat, qui va pouvoir entrer sur ce plateau et qui va pouvoir s'asseoir avec nous aux éditions Albin Michel? Vous êtes cancérologue de renommée internationale. Est-ce un roman ou pas? Est-ce un roman? C'est quand même, moi je l'ai lu et c'est quand même un... C'est quand même presque un essai sur le cancérologue qui vous est, que vous êtes, et qui raconte peut-être l'expérience qu'il a eue avec ses malades.
C'est clair que ce roman, c'est le combat de toute ma vie, c'est le combat pour la vie, c'est le face-à-face entre deux forces, deux puissances extraordinaires de vie, une femme qui veut sauver sa vie et une cellule cancéreuse qui ne veut pas mourir. Et en fait, j'exprime l'admiration que j'ai fini par avoir, y compris, alors bien sûr, pour toutes ces malades, toutes ces femmes qui font tout pour, qui supportent les chimios, les pertes de cheveux, les chirurgies, enfin, leur combat est admirable, hein, et je l'ai vu depuis 48 ans. Mais en même temps, j'arrive au bout de ma carrière où je me dois de dire que j'ai aussi une forme d'admiration pour la cellule cancéreuse. C'est une cellule humaine, comme celle qui nous constitue tous les jours, mais qui est d'une puissance, d'une force, d'une envie de vivre, d'une capacité à se reproduire, à résister à tout. C'est la forme la plus puissante de vie qui existe sur Terre, une cellule cancéreuse. Rien ne la tue, ni l'absence d'oxygène qui nous tuerait, ni la température qui monte, ni la température qui baisse, ni les rayons, ni les chimios. Elle résiste à tout. De ce point de vue-là, même si c'est une puissance de mort, parce qu'à force de vouloir vivre, elle tue souvent la personne qui la porte, mais... Bon. Objectivement, c'est incroyable ce qu'elle est capable de faire.
Alors, je m'appelle Anna, et il se trouve que Anna, c'est précisément cette tumeur. C'est... Hein, c'est ça qui est particulier dans votre...
On rentre dans l'intimité d'une cellule cancéreuse. On voit comment elle vit, elle mange, elle dort, elle se reproduit.
Alors, on en parlera évidemment dans quelques instants avec vous. Simplement, on termine. C'est l'avantage que vous avez d'être présent avec nous aujourd'hui, c'est que la fin est optimiste.
Ah, vous
parce que vous voyez, alors que nos débats, nous depuis ce matin,
on commence à descendre
depuis 9h ce matin, depuis 9h ce matin, on dit que c'est fichu, mais là manifestement
vous me connaissez d'abord.
Oui, parce que vous êtes un optimiste.
Moi, je suis un grand optimiste.
Oui, c'est vrai. Parce que
si un jour je raconte comment ça a commencé la cancérologie pour moi en 74, mais c'était l'horreur, on amputait tout, les seins, les jambes, les larynx, les rayons brûlés, tous les tissus étaient complètement brûlés, comme les types qui sortaient d'Hiroshima. Les chimeux, il y avait 4-5 médicaments, c'était des horreurs. Ouais. Et regardez, on en est aujourd'hui, les thérapeutiques.
Mais par exemple, le président Pompidou, c'était pas, dont on va célébrer les 50 ans, oui. C'était un cancer?
C'était une forme de leucémie, si vous voulez.
Et ce cancer, il serait guéri aujourd'hui?
Oui.
Complètement?
Oui. Enfin, la forme la plus habituelle de ce cancer, qu'on appelle le myélome multiple... maladie de Kaller, aujourd'hui, elle est curable dans plus de 80% des cas.
Parce que je regardais hier soir le documentaire sur François qui était formidable, et ce qui est frappant chez le président Pompidou, c'est en 24 mois combien physiquement...
Mais la cortisone, il y avait des fortes doses de cortisone. Mais regardez aussi quelque chose qui a changé. À l'époque de Pompidou, il n'a jamais dit qu'il avait un cancer. Regardez Charles III là, et Kate qui l'annonce. Ça aussi, ça a changé. C'est l'image de la maladie. On l'a fait changer cette image grâce au soutien. Bon, il y a toujours de l'ostracisme et de la discrimination.
Il n'était pas au pouvoir. À partir du moment où vous êtes au pouvoir, vous avez une gestion de la maladie qui est complètement différente.
Totalement.
Il n'y a qu'à le voir.
Mitterrand,
président,
mais Mitterrand.
Toujours dissimulé.
Mitterrand qui faisait, qui faisait faire par Gubler.
Vous pensez aujourd'hui, par exemple, que si un président en Occident était malade, il ne le dirait toujours pas?
Je serais obligé de le dire, parce que maintenant, les moyens d'information sont beaucoup plus développés. C'est très difficile de dissimuler quelque chose. Néanmoins, un président, en principe, essaie de s'entourer de mystères, surtout s'il a des négociations importantes. C'est évident qu'il doit le dissimuler.
Alors, voyons, écoutons plus exactement François Molins, parce qu'on était dans cette actualité de drogue tout à l'heure, XXL, et qui nous interroge, parce qu'on découvre en un an, le rapport à la drogue a aussi changé. Puisqu'on entend des témoignages qu'on n'imaginait pas entendre. Cartel de Medellin, disent les uns. La bataille est perdue, disent les autres.
A changé. Le discours politique.
Oui, mais quand des magistrats parlent, quand des journalistes...
Ils s'engueulent quand ils parlent.
Oui, vous faites bien de le rappeler. Alors, écoutez ce qu'a dit M. Molins, où il défendait les magistrats, mais il faut aussi savoir que, visiblement, entre Éric Dupond-Moretti et lui...
C'est une haine profonde.
Voilà, c'est une haine terrible.
Parce que François Molins aurait bien aimé être le ministre de la Justice d'Emmanuel Macron. Et il aurait adoré voir Éric Dupond-Moretti condamné il y a quelques mois.
Alors, écoutons quand même ce qu'il a dit sur les magistrats.
Je pense que ce sont, ici et ailleurs, des magistrats engagés au quotidien,
et qui vous en dit la vérité avec une grande lucidité sur le combat qu'il mène au quotidien. Et si vous me permettez de poursuivre cet aparté, je dirais qu'ils me paraissent parfaitement irréprochables, ce qui m'amène à une incompréhension majeure face au comportement du garde des Sceaux à Marseille, face à cette remontée de bretelles, comme certains l'ont nommé, qui me paraît personnellement, moi, aux antipodes de l'office d'un garde des Sceaux qui est censé soutenir la justice, défendre son indépendance. Et je pense qu'il n'est pas convenable d'avoir ce type de comportement qui consiste à reprocher à des magistrats d'avoir dit la vérité devant des émanations de la nation et de la représentation nationale. Et je voudrais rappeler que les magistrats ne sont pas là pour venir au soutien ou à la justification des discours politiques des uns ou des autres, qu'il s'agisse de la majorité ou de l'opposition. Ça n'est pas leur office.
Je pense que l'expression « nous sommes en train de perdre la guerre » n'est pas opportune, a dit le ministre, et je lui ai dit ce propos est malheureux, et moi je ne veux pas de discours de défaitisme. C'est pas le problème. Moi ce que je veux, c'est un discours de vérité. Alors que le président, que le ministre prenne la parole, pourquoi pas? Il a le droit, c'est sa liberté de parole. Est-ce qu'il a le droit, au nom de la séparation des pouvoirs, d'aller parler à des magistrats et de les engueuler?
Parce que c'est une remontée de bretelles concernant des magistrats qui sont intervenus dans le cadre d'une commission d'enquête et ils se doivent de dire la vérité face aux représentants.
Donc il aurait pu parler, pourquoi pas à l'Assemblée, dans une interview.
Oui.
Ça, il avait tout à fait le droit, mais il n'a pas le droit.
Il dispute le réel.
Il n'a pas le droit d'aller les engueuler, nous sommes d'accord.
En disant, vous n'aviez pas. Ah non, ouais. Non, mais c'est très grave.
Surtout qu'il ajoute que ça fait le jeu du Rassemblement national. Oui, ça veut donc dire quoi? Que le réel, c'est effectivement l'idéologie du Rassemblement national, c'est donc un aveu d'échec.
On parle du ministre du sentiment de sécurité.
Non, mais exactement. Éric Dupond-Moretti est obsédé par Philippe Pétain par 1940 et 1945, et son logiciel s'est arrêté en 1945. Donc voilà. Donc, et c'est un problème d'ailleurs. Il n'a toujours pas compris, et il est dans les années 80, il n'a toujours pas compris qu'il est en 2024. Donc, voilà. Il fait partie, effectivement, de ceux qui participent au déni de ce qui peut se passer en France. Et
à l'extrême droite, c'est la vérité.
Exactement, et les conclusions, nous les connaissons. Dans l'actualité également, il y avait cette assurance chômage. Aujourd'hui, on peut peut-être écouter Gabriel Attal sur les assurances chômage. Il a proposé trois pistes hier. C'est extrêmement intéressant, d'ailleurs, parce que
sauf pour les chômeurs. Non, mais ça mettra personne dans la rue.
Intéressant pour les chômeurs. Non, mais t'as l'impression que ce gouvernement est en mode panique. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont devant un mur. Et le meilleur exemple, c'est sans doute cette semaine des 4 jours qui a été proposée sans aucune concertation. Vous demandez à un DRH ici d'organiser une semaine de 4 jours, en fait, c'est impossible.
Ouais, c'est une semaine en 4 jours. Parce qu'il n'y a pas de réduction de temps de travail. C'est faire rentrer la semaine en 4 jours.
Oui, mais c'est un peu
différent. Dire, la
ça se discute.
Mais ça désorganise tout le monde.
Non, mais ça se discute.
Totalement.
Tu balances pas ça comme ça.
Non, mais surtout, c'est pour les couples divorcés.
Oui.
Donc, quid des couples mariés.
Oui,
c'est quand même drôle de faire un
avantage. Bien sûr, c'est la semaine de 4 jours. En fait, c'est de dire quand tu es couple divorcé.
Oui.
Et que tu as la garde
alternée,
tu pourras faire une semaine de 4 jours. Pourquoi pas? Mais moi, j'ai eu plein de chefs d'entreprise qui disent, mais ils sont. Et hier, il y a eu des réunions avec le MEDEF notamment. Les gens du MEDEF, ils sont effondrés de ce qui se passe. Ils disent, c'est mode, ils veulent nous piquer l'argent de l'assurance chômage, c'est un truc qui marche. L'assurance chômage, ils veulent nous le piquer. Si l'État s'en mêle, ça sera fini. Donc, ça s'appelle mode panique. Écoutez Gabriel Attal.
Oui, il y aura une réforme de l'assurance chômage cette année. Il y a 3 grandes familles de paramètres possibles. Vous avez la durée d'indemnisation. Donc une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Dans le deuxième paramètre, vous avez le temps qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir bénéficier du chômage. Là aussi, on peut imaginer soit de dire qu'il faut travailler plus long, davantage sur les 24 derniers mois, ou alors dire les 6 mois, il s'apprécie sur une durée moins longue qui n'est plus 24 mois. Et le troisième levier, c'est celui du niveau d'indemnisation du chômage, combien vous touchez quand vous êtes au chômage et comment est-ce que ça baisse en fonction du temps que vous passez au chômage pour vous inciter à reprendre un emploi. Là aussi, c'est une des pistes qui a moins ma préférence que les deux précédentes.
Bah, ça, c'est pas mal.
Bah, écoutez, quand vous avez le chômage parce que vous avez travaillé 6 mois sur une période de 2 ans, ça se discute de réduire cette période de 2 ans à 18 mois. On peut en discuter. Et ça a un bénéfice, touche à l'assurance chômage, c'est que vous ne mettez pas les gens dehors comme sur une réforme des retraites. C'est-à-dire que sur une réforme des retraites, ça concerne tout le monde. Tout le monde, comment dire, ne se retrouvera pas forcément au chômage et n'a pas envie de se mobiliser pour les chômeurs. Voilà.
Deux simples observations. D'abord, je ne vois pas pourquoi l'amateurisme gouvernemental sur le budget et sur le fait qu'il n'ait pas prévu le déficit, c'est quand même pas rien.
Ils l'ont prévu, mais ils l'ont masqué. Ils le savaient.
Je pense que c'est plus grave. Oui, c'est en, bon,
ils l'ont masqué. C'est-à-dire que Bruno Le Maire connaissait les chiffres et ne les disait pas.
En quoi ce comportement, les chômeurs doivent être visés derrière ça? Ils n'ont pas la responsabilité, d'autant plus que, vous l'avez dit dans votre édito, les caisses de l'UNEDIC sont excédentaires de 1,6 milliard et d'ici 3 ans, il y aura 11 milliards dans les caisses. Et d'ailleurs, l'État vient ponctionner dans ces caisses-là pour financer certaines de ces réformes, la RSA, le RSA et France Travail. Et la seule chose que je vous indique, le durcissement des conditions d'indemnisation des chômeurs, il y a eu déjà deux réformes depuis 2017, n'a pas fait la démonstration que ça permettait une reprise d'activité, si ce n'est pour les cadres. Ça, c'est
mais il y a beaucoup d'abus. Il y a beaucoup d'abus, par exemple, dans le secteur de la restauration.
Il y a 60% des chômeurs qui ne sont pas indemnisés.
Dans le secteur de la restauration, il y a plus d'offres que de demandes. Oui. Pourquoi mettre en place un chômage, puisqu'il y a plus d'offres? Ce qui se passe simplement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui bossent de mars à septembre, octobre, et puis après s'arrêtent. Et ce sont les restaurateurs qui nous le disent. Il y a de l'abus.
Je ne suis pas opposé à ce que vous venez de dire dans certains secteurs.
Bah oui.
Reste qu'il y a aussi énormément de personnes qui sont au chômage, qui ne l'ont pas décidé, et quand on leur fait une offre raisonnable d'emploi, elle n'est pas toujours raisonnable.
Dans les secteurs qui sont en tension, on pourrait imaginer qu'il n'y ait pas de chômage.
Il y a une majorité de la France qui est contre la cistana, donc vous verrez que cette réforme passera
mais vous êtes d'accord
assez
avec
facilement.
Moi les efforts à faire ne sont pas obligatoirement que sur les épaules de ceux qui subissent les conditions les plus fragiles.
Il y a des abus, vous savez très bien. Ici.
On n'a pas parlé de l'actualité internationale, on n'a pas parlé de la guerre, et on va justement, c'est pour ça que Jean-Marie Rouard était venu ce matin, le bar de l'Oriental, je le rappelle, qui est une pièce sur Dien Bien Phu, qu'on peut voir tous les jours.
Racontez. 4 fois par semaine.
4 fois par semaine au théâtre Montparnasse. À quelle heure?
À 19h.
Bon. Mais au-delà de cette pièce, ce qui nous intéresse, c'est le thème qui est développé dans cette pièce. Et le thème, c'est les va-t-en-guerre. Et le parallèle qu'il y a entre l'Occident, qui est parfois pacifiste, mais aussi guerrier.
Ce sont les contradictions de l'Occident. Mais cette pièce de théâtre, bien sûr, c'est une pièce de théâtre, c'est une œuvre artistique. Néanmoins, c'est aussi une réflexion. C'est une réflexion parce que la guerre d'Indochine nous amène à... En effet, et ça a été la première date, au fond, où l'Occident s'est mis à réfléchir d'abord parce qu'il y a eu la défaite de Dien Bien Phu, en ce moment, c'est l'anniversaire de Dien Bien Phu. Et subitement, au fond, des gens qui étaient méprisés, parce qu'il y a eu un très très gros... dès l'origine de la conquête de l'Indochine, c'est un mépris total de Jules Ferry, puisqu'il dit que c'est le devoir des races supérieures de civiliser les races inférieures. Et subitement, il y a un réveil, justement, avec d'abord Cao Bang, qui est la date de ma pièce, et la première défaite, et ensuite Dien Bien Phu, parce que subitement, l'Occident se réveille, la France se réveille, et elle est prise dans ses contradictions. Qu'est-ce que la France, pays des droits de l'homme, pays de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, allait faire 11 000 kilomètres pour asservir.
J'entends, mais en quoi ça nous parle aujourd'hui? C'est ça qui m'intéresse.
Parce que c'est de toutes les époques, et c'est particulièrement, c'est sur la guerre, parce que c'est justement cette espèce de fond. Le professeur Kayat parlait de cette lutte entre le bien et le mal, entre le cancer et la vie. Eh bien, toute l'histoire de l'humanité, c'est un combat entre les gens qui veulent faire la guerre, qui sont très nombreux. Il y a une sorte d'hubris.
Et qui veut faire la guerre en France, par exemple?
Comment?
Qui veut faire la guerre?
Écoutez la télévision. Il y a beaucoup de gens
qui
poussent, ne serait-ce que le président de la République, qui a commencé...
Donc lui, il est va-t-en-guerre. Vous le mettez dans les va-t-en-guerre.
Oui, je considère que, vous savez, c'est un très très vieux débat. Vous l'avez au 5e siècle avant Jésus-Christ. Vous avez Aristophane qui fait une pièce sur la paix, qui s'appelle La paix. Je vous le recommande. Et qui montre exactement... C'est un archétype de notre histoire. Il y a toujours des gens qui veulent faire la guerre. Qui veulent faire la guerre parce que il y a une sorte de fascination des peuples pour la guerre. C'est mystérieux. Et les gens qui veulent faire la paix sont très mal vus. C'est Jaurès qui est assassiné en 14. C'est beaucoup d'autres hommes politiques.
Rabin.
Pour la paix...
Rabin, je dis.
Rabin, voilà. C'est-à-dire que la paix, étrangement, les peuples ont une fascination. Il y a un testostérone pour... heureusement pour l'amour, mais il y a un autre testostérone effrayant pour la guerre. Et c'est ce que j'ai essayé de montrer. Parce que ce qui est très curieux, c'est que cet Occident, au fond, se défend pour ses valeurs de paix. Sur qui le fonde? Ce sont des gens comme Montaigne, ce sont des gens comme Victor Hugo, comme Camus, bien tous ces gens-là, croyez-vous que ce soit des va-t-en-guerre ? Ce sont des gens qui ont la religion de la paix et de la vie.
Mais si Emmanuel Macron vous écoutait, il ne vous dirait pas que c'est un va-t-en-guerre. Je ne pense pas qu'il voulait...
Il vous dirait esprit muni quoi ?
Voilà.
Vous diriez que vous avez l'esprit muni quoi ?
Mais l'esprit muni quoi ? Pardon. Mais ça fait partie des sottises qu'on entend en ce moment. Parce que l'esprit muni quoi ? Croyez-vous que si on avait déclaré la guerre à Hitler en 38, ça aurait eu un autre résultat ? Mais bien sûr que non. Il faut lire l'histoire de l'armée allemande de Benoît Méchain. L'armée d'Hitler...
Donc on a eu raison.
Comment ?
On a eu raison, Daladier avait raison.
Il y avait un très bon article
sur
Daladier qui montrait à quel point...
Il avait raison, ah oui.
On n'était pas en état de faire la guerre. Mais d'ailleurs...
C'était pour préparer l'effort de guerre.
Mais aucune guerre, c'est ça. Enfin, bon. Moi, personnellement, je suis archi-pacifiste. Moi, mon patriotisme, c'est le patriotisme de la vie.
Mais sauf que Poutine...
Aucune guerre. Oui. Les guerres, c'est... Une guerre en amène une autre. Regardez, 70 a amené 14, 14 a amené 40.
Bon, mais 40 a amené rien du tout.
40, si, ça a amené... l'asservissement de...
Ça a amené que l'Europe s'est unie, quand même.
La moitié de l'Europe a été...
40, on peut imaginer que depuis 40, il y a eu quand même des choses positives en Europe.
Mais, ah bon, vous appelez ça l'asservissement sous le communisme de la moitié de l'Europe? Franchement, comme élément positif, on voit que vous n'étiez pas ni en Pologne...
Non mais vous avez raison, c'est un argument que je peux entendre. Mais
les conséquences de la guerre de 40 ont été effroyables. 15 millions de morts.
Non mais il y a quand même eu quelques...
Vous voyez,
vous êtes trop pessimiste.
Vous êtes bien de votre époque. Vous voyez la guerre comme un jeu vidéo.
Ah non.
Eh bien... l'horreur de la guerre.
Je la vois.
Regardez la différence entre les présidents.
Mais moi, je veux pas de l'ordre.
Entre les présidents de la Ve République qui ont fait la guerre et ceux qui ne l'ont pas faite.
Je suis d'accord.
Eh bien, vous verrez pourquoi est-ce que Chirac n'est pas intervenu en Irak. Il savait ce que c'était que la guerre.
Vous avez raison.
Je crois que d'autres présidents de la Ve qui n'avaient pas fait la guerre la voyaient comme un jeu vidéo.
Parce qu'on en parle très peu.
Très vite, parce que monsieur Kayat est là.
Le discours d'Emmanuel Macron sur l'Ukraine et sur son ambiguïté d'envoyer ou non des troupes à Kiev fonctionne dans les sondages. J'en parle avec différents candidats opposés à lui aux européennes. Ils perdent des points en faveur de Valérie Ayer. Donc, quelque chose qui avait fonctionné, l'effet drapeau au moment de la présidentielle, refonctionne là, dans les sondages, dans les enquêtes d'opinion pour les européennes. Madame Ayer a gagné 2 points dans le dernier sondage. Et il y a des candidats de droite qui ont perdu des électeurs au profit d'Emmanuel Macron ou de sa candidate. Donc ce discours refonctionne sur une partie de l'électorat, retraité notamment, qui a peur de la guerre et qui ne la fera pas.
Donc et dans les va-t-en-guerre, vous mettez Emmanuel Macron, vous mettez d'autres personnalités parfois que vous entendez ici ou là ?
On le voit partout aujourd'hui, puisque les menaces de guerre sont permanentes. Donc c'est vrai que les va-t-en-guerre, ça existera toujours. Pardon, mais l'homme à la chemise blanche ne veut pas dire que ce ne soit pas un va-t-en-guerre.
L'homme à la chemise blanche, qui ça peut être, l'homme à la chemise blanche ? Vous voulez parler de M. Lévy, Bernard-Henri
Lévy ?
Oui,
c'est un va-t-en-guerre, c'est un va-t-en-guerre professionnel.
Non mais vous dites que vous êtes pas...
Il n'est pas là,
Il n'est pas comme Vladimir Poutine, qui n'est pas...
Il n'est pas là pour vous répondre. Mais vous accepteriez d'échanger avec lui ?
Comment ? Avec Bernard-Henri Lévy ?
Oui.
Bien sûr, mais j'échange même avec vous, donc vous voyez. Et d'ailleurs, je l'échange.
Alors, c'est à double interprétation.
Je le reçois gentiment. Ça fait la troisième fois qu'il vient en 15 jours. Personne n'est là. Et en plus. Et
pardon, nous avons fait une faute de français. Je ne veux pas commettre. Échanger avec vous. On échange quelque chose. Alors,
mais c'est pas gentil.
Alors, j'échange.
Je croyais que vous étiez gentil.
J'échange des mots gentils avec vous. Mais
ça m'a fait de la peine. J'échange. Bon, David Kayat, je m'appelle Anna. C'est un roman. Mais évidemment, il y a une scène qui est terrible, c'est celle où on apprend qu'on est malade. Et ça, vous êtes confronté, vous, à ça depuis toujours. Et vous voyez forcément quelqu'un qui est évidemment qui est en très grande difficulté. Et vous écrivez, après être entré dans le cabinet de son médecin, avoir échangé des banalités sur les joies de sa nouvelle maternité, elle se déshabilla tout en continuant de bavarder, jusqu'à ce qu'elle remarque une lueur de malaise dans le regard du gynécologue quand il ausculta son sein gauche. Parce qu'évidemment, on regarde toujours le médecin.
Oui.
On est tous comme ça, ça va docteur, on a peur, etc. On est tous pareils.
Dans cet instant précis où le patient est venu consulter parce qu'il a un doute et il attend le verdict,
le patient devient à des comportements presque animaux, c'est-à-dire qu'il sent votre odeur, il voit votre regard, il voit si vous tremblez. Il n'y a pas que la communication verbale, il y a tout ce qui est non-verbal. Et ce moment de l'annonce du diagnostic, c'est pour un cancérologue, et bien sûr, parce que c'est extrêmement dur pour les malades, c'est un des moments les plus difficiles dans la vie d'un médecin, mais il y en a un qui est encore pire, c'est l'annonce de la rechute. Parce qu'à la limite, quand vous êtes au début de la maladie, que vous annoncez un cancer, généralement un bon cancérologue ou un bon médecin, quel qu'il soit, va annoncer également une proposition, va dire mais ne vous inquiétez pas, ça va se soigner, on va faire ci, on va faire ça. Donc on tient à bout de bras le malade au moment où il s'effondre par l'annonce de ce qu'on vient de lui dire. Mais il y a un moment où c'est encore plus terrible pour lui, c'est quand finalement il pensait que la guerre était finie, qu'il avait gagné, que, etc. Les années passent et puis un jour on fait un scanner. Il y a des métastases. Et là, je peux vous dire, pour l'avoir vécu des milliers de fois dans ma carrière,
c'est pire que la première fois.
Parce que là, il n'y a plus d'espoir. Alors, aujourd'hui, il y a un tout petit espoir de guérison. Parce que
un tout petit espoir pour
de guérison. La rémission, on arrive à l'obtenir la plupart du temps, même avec la métastase. Pas toujours, mais enfin souvent, disons. Mais la guérison, elle est très rare à partir du moment où il y a une rechute. Alors, c'est quoi la différence? La différence, c'est que quand on arrêtera le traitement à un moment donné, la maladie ne reviendra plus jamais. Bien ça, sûr. C'est la guérison.
Est-ce qu'on peut classer en type de réaction oui. les uns et les autres? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y en a énormément? Ou est-ce qu'au contraire, il y a deux, trois, quatre manières de réagir lorsqu'on apprend?
Avec mon expérience, presque 50 ans, il y a autant de manières que de patients. Et en fait, il faut être prêt. C'est comme un... Je ne sais pas comment vous dire. Au moment où vous rentrez... le malade rentre, vous commencez à l'examiner, vous voyez bien qu'il y a un cancer, il va falloir lui annoncer, ou la rechute. À ce moment-là, il faut être prêt à tout. Le coup peut venir de tous les côtés, parce que chaque malade est différent, et il va passer par des phases également, en quelques instants, de la colère au doute, de la peur... à l'envie d'espérer.
Et vous restez combien de temps? Parce que parfois, les gens disent, on m'a annoncé ça, et puis...
Alors ça, avec le plan cancer, on a interdit ça. L'annonce sur le diagnostic... Parce que nous, quand on a fait le plan cancer avec Chirac, on a audité beaucoup d'associations. Les gens qui nous disaient, moi, je suis rentré du bureau vendredi à 5h, j'avais un message de mon gynécologue sur le répondeur me disant, madame, la biopsie de votre sein est positive, vous avez un cancer, on se verra lundi. Ça, c'est fini, normalement. Il y a ce qu'on appelle la consultation d'annonce. On est obligé de prendre... un certain nombre de prix.
Une demi-heure ou 40 minutes,
oui, on n'annonce pas comme ça. Temps, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il faut savoir entourer le malade de plein de présences, au pluriel, dans cet instant de sa vie. C'est-à-dire, il y a le cancérologue qui commence à annoncer, mais ensuite, il y a la secrétaire qui va commenter, ensuite, il y a une infirmière, ensuite, il y a le radiologue, ensuite, il y a le type qui fait la prise de sang. Ce qu'il faut, c'est que toute l'équipe soit là en soutien de cette nouvelle fragilité que va exprimer un malade qui n'a jamais été préparé à l'idée qu'on va lui dire qu'il a un cancer.
Je m'appelle Anna, c'est un roman. Donc il y a Esther qui est malade. Il y a Anna, qui est le nom donné à la tumeur. Et puis il y a Samuel, qui est le mari d'Esther. Esther écoute à la suite du discours du médecin dans une sorte de brouillard nauséeux. Tumeur, ganglion, chimiothérapie, ablation. Elle était catapultée dans un monde inconnu qui la terrifiait. Elle avait toujours eu le choix du chemin à prendre, de la voie à suivre. Mais pourquoi vous avez eu l'envie d'écrire un roman?
Parce que ça fait des années que j'essaye. C'est un peu, quelque part, ma responsabilité dans la société, après Schwarzenberg, après d'autres qui l'ont fait avant moi, d'expliquer le cancer. Et je l'ai fait avec des essais, je l'ai fait avec des interviews, je l'ai fait de plusieurs manières, mais j'ai pensé qu'il fallait finir avec cette attitude doctorale et parler très simplement avec des mots de tous les jours, les mots qu'utilise tout le monde pour essayer d'expliquer. Ce que je voulais expliquer, c'est le courage de cette femme et le combat qu'elle va mener, comment ça se passe, comment elle réagit, mais je voulais aussi parler d'Anna. Parce que Anna, c'est fou, Anna, elle vient de subir avec toutes ses congénères, toutes ses sœurs jumelles, elle vient de subir des chimios et elle est la dernière cellule cancéreuse dans le corps de cette femme. Et elle ne veut pas mourir et elle veut qu'on lui laisse le temps de récupérer pour se remettre à se multiplier et à conquérir des territoires. Et ça, maintenant on sait comment elle fonctionne. Moi, quand j'ai commencé, on n'avait aucune idée de comment fonctionnait une cellule cancéreuse. Maintenant, on sait pourquoi elle devient cancéreuse, comment elle devient cancéreuse, quelles sont les propriétés qu'elle
acquiert. On sait comment elle devient cancéreuse?
Ben oui, c'est des mutations qui surviennent sur son patrimoine. Vous savez, à l'intérieur de chaque cellule, dans un corps humain, il y a 1 million de milliards de cellules. À l'intérieur de chaque cellule, il y a de l'ADN. Quand on était à l'école, on appelait ça les chromosomes. Bon, c'est de l'ADN. Cet ADN, en fait, c'est fou, hein? Dans chacune de notre million de milliards de cellules, il y a 4 mètres d'ADN. Un million, deux milliards de fois 4 mètres. On a 10 fois Terre-Lune en ADN dans chacun de nos corps. Cet ADN, il est donc très petit, très fragile. Et il suffit qu'il y ait une exposition à un facteur cancérigène, le tabac, les hormones, le soleil, la pollution, enfin tout ce que vous voulez. Bon, il y a tellement de causes de cancer dans notre vie quotidienne. Et à ce moment-là, l'écriture de nos gènes sur cet ADN va être modifiée, ce qu'on appelle une mutation. Et si cette mutation elle n'est pas réparée, au bout d'un moment, la cellule devient folle.
Vous arrivez à vous projeter, vous vous dites en 50 ans, on a fait des progrès extraordinaires. Est-ce que vous pensez, par exemple, que dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans, on aura vaincu le cancer ?
Vous me connaissez, moi je suis un éternel optimiste, sinon je n'aurais pas fait ce métier, ou en tout cas je l'aurais arrêté plus tôt. Donc je pense qu'un jour, je pense que rien n'est capable de résister à l'intelligence de l'homme et des hommes ensemble qui mettent en commun leur intelligence. Et donc on vaincra le cancer comme on a été capable d'aller sur la Lune et un jour d'aller sur Mars. On vaincra. Est-ce que je le verrai de mon vivant ? Absolument pas. Parce que cette cellule cancéreuse, chaque fois qu'on trouve un moyen de la détruire, de la cibler, de la tuer... Regardez ce qui s'est passé, l'annonce il y a 2 semaines, de ces 3 malades qu'on a traités pour des glioblastomes, des tumeurs cérébrales. Oui. Ils sont totalement incurables jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas eu un progrès depuis que j'ai commencé en 50 ans.
Et ils sont arrivés. Peut opérer quand même.
Elle revient, parce qu'on ne peut pas enlever du cerveau en plus. Pour opérer un cancer, il faut opérer le cancer et un petit peu autour.
C'est-à-dire un glioblastome, on ne peut pas prolonger une vie.
Il ne faut pas donner de désespoir à ceux qui en sont touchés. Ouais. Il y a des rémissions, il y a des possibilités, mais enfin c'est un cancer.
C'est une tumeur du cerveau, hein, glioblastome.
Tumeur du cerveau, c'est un cancer pour lequel il n'y a pas eu de gros progrès en 40 ans. Eh bien là, pour la première fois, ils ont réussi à injecter ce qu'on appelle des carticelles. C'est quoi ? C'est des globules blancs du malade qu'on a modifiés au laboratoire pour qu'ils apprennent à tuer les cellules cancéreuses et on les a réinjectés. Mais comme le cerveau, il est complètement enfermé dans les méninges pour le protéger, on les a injectés dans le cerveau par un réservoir qu'a mis un neurochirurgien. Pour la première fois, on a eu 3 rémissions. Donc oui, les progrès sont là, oui, c'est compliqué. Un traitement par carticelle, parce que ça existe pour les leucémies, c'est 400 000 euros.
Bon, et ces personnes sont...
Pardon ?
Ces personnes sont... Comment vont-elles aujourd'hui ?
Les 3 ?
Oui.
Non. Justement, l'intelligence de la cellule cancéreuse, elle a muté ses protéines mutées.
Donc elles sont mortes.
Eh oui, parce qu'au bout d'un moment,
donc on a prolongé
les protéines qui n'étaient plus là.
Alors, je le disais tout à l'heure, et c'est important, je ne veux pas spoiler le livre, mais bon, Esther peut enfin profiter de la vie, donc c'est une bonne nouvelle que nous disons ce matin, alors que nous avons été souvent assez pessimistes. Jean-Marie Roy est également avec nous. Alors, Jean-Marie, à chaque fois que vous venez, je vous parle quand même de l'Académie française, vous m'autorisez.
Hein ? Vous avez un candidat devant vous.
Donc, éphémère.
Ah, ça vous intéresserait, l'Académie ?
J'arrive à...
C'est présenté.
Ouais, vous êtes présenté ?
Vous
avez voté pour lui ?
Bien sûr,
oui.
Et vous n'avez pas été élu ?
Mais alors tellement loin que je ne vais même pas me représenter.
Pourquoi il n'a pas été élu ?
Parce qu'il y avait de très bons candidats.
Bien sûr, moi. Mais il y a beaucoup d'injustices. Je vais vous en donner une terrible, moi-même, puisque j'ai dû me présenter 5 fois. Oui. Je pense que le professeur Caillard se représentera et finira...
Bon, la dernière fois que vous êtes venu, on avait parlé de Laurent Fabius, donc cette fois-ci, je n'en parle pas. Mais là, il y a 5 sièges qui sont vacants. Est-ce qu'on peut connaître quelques candidats ?
Une tendance. Non. Écoutez, moi, je ne les connais pas, mais ils vont sûrement se faire connaître. Parce que, mais peut-être qu'il y en a parmi vos invités. C'est très bien. C'est très bien que l'Académie continue. Vous savez, ça fait 350 ans qu'elle existe.
Oui.
Il y a toujours eu des candidats, il y a toujours eu des élus. Bon. Donc, ne vous inquiétez pas.
Je rappelle que Emmanuel Carrère ne souhaite pas être candidat. Je rappelle que Patrick Modiano ne souhaite pas être candidat. Michel Houellebecq ne souhaite pas être candidat.
Il peut changer d'avis.
Florian Zeller ne souhaite pas être candidat.
Il faut être plus... Alors, si vous me permettez, je crois qu'il faut, si on veut se présenter, il faut être un peu modeste.
Ah.
Et maintenant, c'est vrai,
j'ai toutes mes chances.
Il y a des écrivains qui se considèrent, et ça c'est tout à fait nouveau, mais ça mériterait une émission entière. Bon. Il y a des écrivains qui se considèrent comme supérieurs
à l'Académie.
C'est le cas de Michel Houellebecq. Il n'a pas envie de s'insérer dans un groupe humain d'écrivains.
Il a le droit.
Non, mais. C'est une évolution. Au XIXe siècle, c'est inimaginable qu'un écrivain qui a la possibilité d'entrer à l'Académie...
Oui, mais peut-être qu'il trouve que le niveau n'est pas assez bon.
On est
peut-être qu'il trouve qu'il n'y a que des écrivains ringards.
Oui,
Peut-être.
Peut-être. Mais non, mais vous me demandez pourquoi. Pourquoi il ne veut pas venir. Mais ça a toujours été le cas.
Essayez de vous interroger.
Non, non, mais moi, je m'interroge. Ah, vraiment, je suis le premier.
Parce que vous m'avez pas gentil tout à l'heure.
Être très modeste sur cette question, oui. Puisque quand j'ai été élu, oui. La cinquième reprise, oui. Comme Victor Hugo. Oui.
Et puis, ah oui, modeste. Voilà.
Bien, j'ai dit, on m'a dit, vous êtes heureux. J'ai dit, non, je suis inquiet. On m'a dit, pourquoi êtes-vous inquiet? J'ai dit, je suis inquiet. J'ai eu 16 voix de plus que Balzac, parce que Balzac avait eu 2 voix. Oui. Donc, alors, je dis que l'Académie, ce n'est pas une reconnaissance. D'ailleurs, le professeur Carrière n'en cherchait pas une reconnaissance littéraire. Bon. Donc, Pierre Messmer non plus. Non.
Pierre Messmer a été compagnon de la Libération.
Non plus.
Il a eu de bons livres.
Mais disons, c'est plutôt.
Allez, Somaïa Labidi. Et après, je vous passe une petite archive. Ça ne vous ennuie pas? Une petite archive d'apostrophe. Somaïa Labidi, à vous.
Plainte de l'État pour dénonciation calomnieuse contre la jeune fille à l'origine de l'altercation avec l'ex-proviseur du lycée Maurice Ravel. Son départ après des menaces de mort a suscité une onde de choc dans la communauté éducative et fait réagir toute la classe politique. La tendance se poursuit, le nombre de permis de construire toujours en chute en février, seulement 364 800 nouveaux logements autorisés sur un an, ce qui représente une baisse de plus de 20%, reflet d'une profonde crise de la construction comme de l'ensemble de la filière du logement. Et puis jeudi saint, derrière les barreaux, le pape François célébrera la traditionnelle messe dans une prison romaine pour femmes. En 2015, François s'était déjà rendu à Rebibia pour laver les pieds de 12 détenus de différentes nationalités.
Le pape célèbre, et ça c'est une image en direct. Si vous me permettez les images qui illustrent le permis de construire, je ne pense pas qu'on va construire une maison là. Parce que je crois que c'est des images d'autoroute. Donc, je pense pas qu'on. Je comprends que les permis de construire soient en diminution. Parce qu'on n'a pas envie. Bon. C'est une journée particulière pour, évidemment, tous les catholiques du monde entier. Quoi. C'est une séquence particulière. Demain, l'Église est en deuil. Il n'y aura aucune messe nulle part, ni vendredi, ni samedi. Et puis. La journée la plus importante pour les chrétiens, c'est la résurrection, bien évidemment, du dimanche de Pâques. Une image d'apostrophe, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette émission. On est en 77, je crois. Vous venez présenter, je l'ai dit, les feux du pouvoir. Vous avez revu, par exemple, ces images?
Non.
Non. Eh bien, écoutez, Jean-Marie Rouard, quelques années plus tard.
Et j'ai voulu prendre un héros assez idéaliste et assez sympathique. Et vous savez que c'est très important pour un héros de roman d'avoir des références. Dans Stendhal, Julien Sorel a comme référence le Mémorial. Mais c'est un personnage assez antipathique. Là, je voulais que ce soit un personnage d'idéaliste, qui ait une grande, comment dirais-je, une très grande admiration pour des valeurs profondes. Et alors, j'ai choisi comme admiration Bertrand de Jouvenel.
Et c'est vrai, pourquoi vous aimez beaucoup Bertrand de Jouvenel?
Alors, je l'aime pour beaucoup de raisons. D'abord, parce que je trouve que son œuvre est très complète. C'est à la fois un historien, un sociologue,
un économiste,
un philosophe,
et en plus un journaliste.
Et en plus, alors, il a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il écrit admirablement bien, et il y a quelque chose même, je trouve, dans le feu de sa parole, il y a quelque chose même qui rejoint les mystiques. Il y a un souci de la personne humaine que je trouve magnifique et très enthousiasmant.
Il est d'une beauté, Bertrand de Jouvenel, extraordinaire.
Mais l'autre n'est pas mal non plus.
Ah ben vous êtes évidemment très beau, puis vous avez cette
diction est à l'identique.
Ah mais cette voix
d'une beauté extraordinaire. Et vous savez que c'était l'amant de Colette.
Ah, voilà,
c'est le héros de l'herbe.
Il est d'une beauté incroyable.
Oui mais c'était un homme extraordinaire et avec une vie tout à fait passionnante et une réflexion sur le pouvoir qui est absolument extraordinaire.
Et quand vous faisiez apostrophe cette année-là, il y a peut-être 2, 3 ou 4 millions de gens qui regardent. Le lendemain, la popularité du livre explose.
Les demandes de mariage, enfin oui. Mais ça continue. Quand je passe chez vous, c'est pareil.
Ah, bon, bah alors voilà.
On se quitte bons amis.
Bon, bah, merci en tout cas. Il a eu quelques ennuis à la Libération, Jouvenel.
Non. Vous savez, le nombre de gens qui ont descendu à la Libération, bon, franchement, c'était une époque où on faisait des ennuis à tout le monde.
Non, mais certaines personnes n'en ont pas eu. Certaines personnes n'en ont pas eu, quand même. Des personnes n'ont pas eu de problème, par ailleurs, à la Libération. Ah,
vous voulez parler des conseillers d'État qui ont concrétisé le statut des Juifs? Oui, eux n'ont pas eu de problème. Mais il y a beaucoup d'intellectuels pour délit d'opinion, comme Brasillach, côté fusillé.
Oui, Brasillach.
Délit d'opinion. Brasillach, il avait juste écrit des choses immondes sur les juifs, les enfants juifs, on ne doit pas les séparer des mères.
Il y a pas mal de gens qui écrivent des choses immondes qui ne sont pas fusillés.
Oui.
Désolé, non.
J'entends bien.
Si vous voulez défendre, franchement, il y a Jean-Paul Hollande.
Je veux vraiment le défendre.
Camus, je vous signale que Camus a pris position contre la libération contre l'épuration. Non, une épuration intellectuelle. Mauriac, tout le monde sait. Les gens se sont vengés. Mauriac également. Alors ne me mettez pas dans le camp des gens qui sont pro-vichistes. Non, je dis, il y a eu une épuration. Il y a eu 75 000 morts. C'est quand même beaucoup.
Merci en tout cas, Jean-Marie Roy. C'est toujours un plaisir que vous soyez avec nous autour de ce plateau. David Kayat, je m'appelle Anna. Et c'est toujours aussi un plaisir de vous écouter parce que vous êtes un des spécialistes les plus important de ce domaine, et c'est un sujet qui nous forcément nous passionne. Laurent Prat était à la réalisation, Nicolas était à la vision, Guillaume Marceau était au son. Merci à Marine Lançon, à Félix Perrolaz. Bon après-midi, bonne fin de matinée, bon après-midi, et nous, on se retrouve ce soir.
Hey marketers, advertisers and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines. Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.